9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Ce matin, je vais dire à votre SAS, SAS Santé, Amour, Sexualité, à travers une rencontre inédite entre le professeur Henri Joyeux, qui est avec nous. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes un enfant de la balle. Votre père, René, était lui-même chirurgien. Hein.
Absolument.
Ouais,
c'est lui. J'ai qui un frère chirurgien aussi.
Aussi, c'est lui qui vous a donné l'envie de faire ce métier.
Ah oui, aucun
ouais.
doute.
Ouais.
Aucun doute, parce qu'il avait une véritable vocation, si vous voulez, pour les patients. Et j'ai choisi la cancérologie parce que vraiment, ça touche tous les organes. Et en plus, ça va jusqu'à la fin de la vie. Parce que nous ne guérissons que 50% des patients. Il faut être un peu humble, quoi, vous voyez.
Ouais.
Donc 50%, ça veut dire qu'à 50%, on ne guérit pas. Et il faut se battre pour que ces 50% n'arrivent à les guérir. Mais j'ai trouvé la solution.
Ah!
J'ai trouvé la solution. Elle est très simple. Il faut que les 50% qu'on guérit actuellement, ceux-là, vous les passez dans la prévention. Et ceux que vous ne guérissez pas parce qu'on les voit trop tard, il faut les faire passer dans un diagnostic précoce. Et à ce moment-là, on va les guérir. Parce que les 50% qu'on guérit, ce sont ceux qu'on voit assez tôt. Si vous avez un cancer au début, on va vous guérir. Si vous l'avez au stade 3, ça va être dur. Vous comprenez ?
On fera une émission sur le cancer. Hein. Vous avez démarré votre carrière de chirurgien à Tanger. Vrai
oui.
ou pas vrai ?
Oui.
À quel hôpital ?
Al-Qurtubi. Fabuleux. J'ai des souvenirs extraordinaires.
Ouais, j'ai dit ça dans votre biographie.
Oui.
Ouais, et finalement, alors j'ai compris pourquoi.
En face du détroit de Gibraltar.
Ben oui.
C'est extraordinaire.
L'Espagne est en face.
Alors, c'est-à-dire que j'étais interne des hôpitaux de Montpellier, puis je pars en coopération. En coopération, je demande le Maroc. J'arrive à Rabat. À Rabat, on me propose chef de service à Céfrou. Et on me dit, vous avez de la chance parce que c'est la capitale des cerises. Je lui dis, d'accord, mais est-ce qu'on opère à Céfrou ? On me dit, non, vous êtes médecin-chef. Non, est-ce qu'il y a un bloc opératoire ? Non, vous êtes médecin-chef. Ah, je rentre en France. Moi, je suis chirurgien, je veux être avec un bloc opératoire. Je suis ici pour opérer ceux qui en ont besoin. On m'a fait attendre une heure, j'ai dit, bon, je rentre. J'avais une deux chevaux, je rentre en France. Le capitaine ou le colonel, je ne sais plus, est revenu me voir au bout d'une heure, il me dit, vous avez Tanger. J'ai dit, on opère à Tanger. Ben, j'ai une grande ville. Je suis parti à Tanger, le bonheur absolu. J'ai prolongé mon temps de coopération là-bas. Mes parents se sont dit, il va rester là-bas, quoi. Un pays extraordinaire. C'est un peu ma deuxième patrie, franchement.
Ouais.
Alors, ma femme est d'Algérie.
Ouais, vous connaissez bien le Maghreb. Hein.
Oui, ouais. Je connais bien. J'aime beaucoup.
On fera une émission bientôt sur l'émir Abdelkader.
Oui,
vous allez voir.
Bien.
Une émission qui va vous surprendre. On va parler de sexualité ce matin. Vous dites que finalement, bon, c'est aux parents de s'emparer de cette mission d'éducation. Pour les garçons, vous dites que c'est au père ou au grand-père. Mais est-ce que vous parliez de sexualité avec votre père ?
Bien sûr.
Oui ?
Il m'en a parlé, mais il était chirurgien.
Non, mais
Mais d'une manière excessive. Excessive qui ne passerait pas aujourd'hui. Je vais vous dire ce qu'il a fait. Je devais partir en Allemagne avec mon frère, j'étais en culotte courte à l'époque, on avait 13-14 ans. Ça s'appelait des échanges entre des jeunes étudiants, des jeunes élèves allemands et les élèves français que nous étions.
Ouais.
Donc c'était dans les années à peu près 58, vous voyez. Et ce qu'il fallait, c'était faire passer que les jeunes allemands et les jeunes français pouvaient être comme des frangins, comme des copains.
Mmh.
Vous voyez. Après, il y avait la guerre. La guerre, on ne nous en parlait pas. On en parlait, j'avais des oncles qui avaient été faits prisonniers, etc. Tout ça... Personne ne nous en parlait. Donc, on n'était pas obsédé par ce qui s'était passé. On ne savait même pas. On était gosses, la Shoah, on ne savait pas ce que c'était. Bon. Et donc, en Allemagne, et avant de partir, mon frère aîné et moi, il nous appelle dans son bureau. Il nous dit, fermez la porte. Ça veut dire, attention, le paternel, il va dire quelque chose d'important. Alors, il nous dit, il ouvre des bouquins de chirurgie, et il nous montre des sexes masculins, bon, facile à reconnaître quand même pour nous, avec des espèces de tumeurs dessus, épouvantables. Et il nous dit, voyez les mecs. Il n'a pas dit les mecs. Vous voyez les garçons, les deux aînés. Hein. Si vous faites les cons et les filles, vous aurez ça. Vous pouvez partir. Oh putain.
Circuler. Repos.
Bon, alors, vous me direz, c'est atroce. Non, c'est pas atroce, parce que c'est pas si con que ça pour l'époque. Parce qu'à l'époque, on disait rien, et aujourd'hui, on dit pas grand-chose.
Avant les années 60, on était avant la libération, dite
donc,
sexuelle.
Si vous voulez, il nous en a parlé, puis il parlait beaucoup de ses malades. Moi, à table, j'étais à côté de lui, très souvent, on lui téléphonait, et je prenais le combiné. Vous savez, à l'époque, il y avait le téléphone, puis il y avait le combiné à côté. Et j'écoutais. J'écoutais la dame qui racontait ceci, qui racontait cela, qui parlait de sexualité à mon père, qui lui répondait des choses que je pouvais comprendre à peu près ou pas. Puis je disais, papa, elle veut dire quoi la dame là ? Elle dit qu'elle a le feu à la nature, ça veut dire quoi ?
Le
feu à la nature.
Le feu à la nature.
C'est joli.
Et alors on appelle les pompiers quand il y a le feu à la nature ?
Non, j'ai compris assez vite ce que ça voulait dire, quoi. Parce qu'il m'a expliqué. Ou alors il me disait, je t'expliquerai demain.
Ah bon, ça c'est pas bien ça.
Oui, non, mais demain ça voulait dire, c'est pas pour toi tout de suite.
Ouais.
Tu peux pas comprendre tout de suite.
Mais est-ce qu'on peut dire ça aux enfants ? Je t'expliquerai demain. quand ils commencent à poser des questions.
Aujourd'hui, ça, vous avez raison, ça a énormément changé. Je pense qu'il faut être clair, mais il faut être délicat. Délicat, ça veut dire quoi ? S'adapter à l'âge de l'enfant et plutôt lui poser des questions que répondre. C'est-à-dire, en posant des questions, il va vous en poser. Vous voyez ? Donc, c'est très délicat et je comprends que les parents soient très gênés pour ça, quels que soient les parents, leur culture ou tout. Vous avez des gens qui sont hyper développés, qui ont fait l'X normal, si vous voulez, ils sont incapables de parler de sexualité. Pourquoi ? Parce qu'ils en ont peur et parce qu'ils en ont honte, surtout les mecs. Les mamans parleront d'affectivité davantage. Mais l'affectivité, c'est pas que la sexualité. C'est la sexualité, certainement. Mais, si vous voulez, le problème, c'est qu'on va résoudre aujourd'hui la sexualité, un sexe masculin dans un sexe féminin. C'est pas ça. C'est un cœur qui cherche un autre cœur. C'est pas la même chose.
Tu avais une expression pour résumer tout ça. Il faut pas mettre la charrue avant les bœufs.
Oui.
C'est vous.
Oui. Non, mais vous avez raison.
Les bœufs, ça serait donc la sexualité, la charrue, ça serait l'affectivité.
Oui. Hein? Je pense qu'il peut pas y avoir de sexualité épanouie s'il y a pas une affectivité. Mais le problème, c'est qu'on éduque sur la balistique sexuelle. Balistique. Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui.
Bon, et ben, à partir du moment où vous expliquez sur la balistique, les gens ne comprennent pas. Ben oui, ils voient tout entre les jambes.
Mais l'important, c'est que les gens qui nous écoutent comprennent. Hein,
que je suis certain qu'ils comprennent.
Oui.
Je suis certain qu'ils comprennent.
Alors, on
parce
dit tirer à balles réelles.
La vraie sexualité, oui. Ça démarre là-haut dans le citron. Vous comprenez ? Ça démarre dans le citron. Qu'est-ce qui fait qu'un type va se retrouver avec une érection ? C'est parce qu'il a vu une image, parce qu'il a une sensation, parce qu'il a une odeur, parce qu'il a une vision de ceci ou de cela, même s'il est avec quelqu'un. Mais ça part de là-haut. Et quand ça marche pas là-haut, ben la sexualité, elle est à plat. Vous avez des gens aujourd'hui qui ont eu tellement de sexualité balistique, si vous voulez, forte, puissante, tout ce que vous voudrez, qui se retrouvent à sec. Moi, j'en ai vu. Quand des types changent de partenaire, quel que soit le partenaire, X fois, et qu'un jour, il y a un partenaire qui lui dit « t'es nul », c'est la cata, parce qu'il a entendu « t'es nul ». Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de multiplicité de partenaires que vous avez des évaluations, presque les notes, 13, 14, 12, 18 ou 20, quoi, vous voyez ? Et vous avez des hommes en particulier, parce que l'homme, dans le plan de la sexualité, est beaucoup plus sensible que la femme, hein, attention, hein. Beaucoup plus sensible que la femme. Je parle de l'homme.
On aura ce débat avec Nadia Elbouga tout à l'heure. Pour vous, tout commence dans les années SIDA en 1982, l'année de la découverte du virus.
Oui.
Et c'est là que vous décidez de donner bénévolement une journée par semaine à des jeunes autour de la santé, de l'amour et de la sexualité. Vous avez rencontré à peu près combien de jeunes pour leur en parler, vous savez, vous ?
Pas loin du million. Parce que j'ai fait ça pratiquement toutes les semaines. Absolument bénévolement, dans des écoles où j'avais des amphis avec 2000 gosses. Alors, on mettait seconde, première, terminale ensemble. On mettait les tout-petits, c'est-à-dire les CP et puis les maths sup, les maternelles supérieures ensemble, avec les CE1. Ensuite, on mettait les CE2, les CE2 et les CM1, et ensuite les CM2, les 6e, 5e ensemble, les 4e, 3e ensemble. J'en ai vu un à la pelle. Et dès qu'ils étaient capables d'écrire, c'est-à-dire à partir de la 6e, ils écrivaient sur des papiers anonymes, ils mettaient simplement leur âge, et puis G, ça veut dire je suis garçon, F, ça veut dire fille. À la fin, c'est-à-dire depuis à peu près quelques années, je continue encore à en faire beaucoup moins, il y en a quelques-uns qui me mettent Edna, ça veut dire neutre, je ne sais pas. Ça, c'est pour déconner. C'est pour déconner, parce qu'ils savent très bien s'ils sont garçons ou filles, quoi.
C'est pas ça.
Si, ça, très bien. Faut pas les prendre pour des idiots, attention.
C'est aussi un sujet dont on parlera tout à l'heure. Parler de sexualité sans tabou, ça vous est venu naturellement ou il a fallu que vous fassiez vos armes, que vous trouviez, on va dire, les bons mots pour parler à des jeunes ?
Bonne question. C'est eux qui m'ont appris parce que je voyais par les questions qu'ils me posaient si ce que je disais, ils l'avaient pigé. Donc il fallait que je m'adapte à leur langage. C'est pour ça, pas de morale, pas de tabou, mais de l'humour. Et par l'humour, vous passez de l'amour. Vous venez ? Alors, étant joyeux 24 heures sur 24, ça peut vous aider.
Oui.
Voilà.
Abtenim. ça tombe bien parce qu'on va en parler sans tabou. Alors, vous en avez tiré plusieurs livres, mais c'était vraiment des questions. Hein. Vous êtes parti des questions que vous ont posées ces enfants. Alors, c'est marrant parce que pour nous, des adultes, il y a des questions qui vont nous faire, qui vont nous faire rire, hein, finalement.
Oui.
Et j'ai redécouvert une expression que je n'avais pas lue depuis longtemps dans votre livre, le touche-pipi.
Oui. Touche pipi, oui.
On n'en parle plus, on dit plus touche pipi aujourd'hui. Arianis qui réalise l'émission dit encore touche pipi. Non, c'est fini.
Un autre terme, c'est spermé.
Oui.
Vous le connaissez celui-là ?
Ah non. Ah
ben voilà, mais les sixièmes, ils vous disent je sperme, tu spermes, ils le déclinent. La conjugaison, c'est le verbe spermé. Et un jour, j'ai entendu ça dans une récré. J'ai dit merde, mais alors j'ai fait venir le gosse, ça veut dire quoi ça ? Il m'a expliqué.
Alors, vous avez tiré alors, 4 livres. Le premier, bon, c'est pour les petits, c'est « Comment c'est l'amour ».
4-10 ans.
Non, le premier... pas celui-là, c'est « Comment on fait des bébés ».
Maman, comment il vient le bébé, voilà, c'est ça. C'est ça la question.
C'est, voilà, première question, voilà. Donc, il y a le livre et il y a
un CD.
Un CD intérieur. Après, « Comment c'est la puberté pour les 10-13 ».
Capital. C'est l'âge le plus important de la vie. Votre puberté, ma puberté. Pourquoi ? Parce que filles et garçons, nous n'avons pas la même puberté au même âge. Et que la puberté, ça se prépare. Ça se, si vous voulez, ça se, bonjour madame, ça se prépare par une information de qualité que la maman va donner à sa fille. C'est pas le père qui parle, hein. Et que le papa va donner à son fils. Et c'est là que les papas sont pas géniaux, quoi. Nous ne sommes pas géniaux.
Âge capital. Après, il y a comment c'est la sexualité. Donc ça, c'est pour les 13-15.
Tout à fait.
Et puis comment c'est l'amour. Et ça, c'est pour 15-20. Les 15-20. Parce qu'on ne se pose pas les mêmes questions à tous les âges.
Ouais.
Mais finalement, à quel moment, comment déterminer l'âge et ce qu'on dit en fonction des âges ?
Alors, vous avez deux choses à bien avoir en tête. C'est que vous avez la puberté psychique qui est préalable à la puberté physique aujourd'hui. Mmh. C'est-à-dire que les images que l'on voit, que l'on reçoit, qu'on les veuille ou qu'on ne les veuille pas, déterminent chez l'enfant... Si vous voulez, un démarrage de sa sécurité psychique, j'entends bien. C'est pour ça que j'ai une expression extrêmement belle d'un gosse qui un jour vient me dire en pleurant, parce qu'après les conférences, je pouvais les voir seul à seul, d'accord ? Et le gosse, il vient me voir, 12 ans, 13 ans, il se met à pleurer comme un bébé, quoi. Et puis il me dit, moi, j'aurai jamais d'enfant. Je dis, pourquoi tu me dis ça ?
Ben, je sais pourquoi il disait ça.
Ouais.
C'est la couleur de son sperme.
Voilà. Parce qu'il me dit, j'ai du sperme comme de l'eau. J'ai dit, mais comment tu sais ça ? Et il me dit, mais mon copain, il me l'a montré. Lui, il a du sperme comme du lait. Ah, bon, alors pour lui, c'était le lait. Pour l'autre, c'était la flotte. Et le gosse qui avait du sperme normal, si vous voulez, lui, il n'aura jamais d'enfant. Le gosse, affolé, mais mettez-vous à sa place. Et comment il avait fait venir son sperme avec de la flotte, hein, d'après vous ? Ben évidemment, il s'était fait la calinette.
Alors voilà. Calinette, c'est une expression du professeur Joyeux.
Oui. Parce que quand vous câlinez le bouninet, ça vous fait quoi ? Pas grand-chose. Quand vous câlinez sans vous en rendre compte au départ, la zigounette, bah, tiens, elle se lève, c'est pourquoi ? Vous allez voir maman, elle vous dit, hey, petit, il ne faut pas toucher. Ou alors vous allez voir papa, il vous dit, écoute, je t'expliquerai plus tard. Parce que papa, il est emmerdé pour parler de ce sujet-là. Vous voyez ? Il en a presque peur.
Et alors, qu'est-ce que vous lui avez répondu à cet enfant donc, qui se disait qu'il ne pourrait pas avoir
d'enfant ? Je lui ai dit, écoute, tu auras une dizaine d'enfants, je te le dis tout de suite, je te signe un papier, parce que pour l'instant, c'est encore un peu trop jeune. Et tu vois, tes petites bouboules qu'on appelle les testicules, pas testibules, parce que souvent, ils appellent ça testibules. Tes testicules, ils vont se mettre à bosser, t'inquiète pas, ça va venir tout seul.
Voilà, il y a réponse à tout. Alors, Nadia Ebouga vient d'arriver, l'émission est en direct, et c'est vrai que ça circule, ça bouge.
Chère consoeur.
Ça bouge aujourd'hui à Paris, je suis désolé Nadia, mais bon, voilà, vous êtes partie tôt pourtant.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Bonjour, professeur Joyeux.
Bonjour madame.
Je vous ai chauffé le terrain. Hein.
Oui, je vois ça.
J'ai préparé le terrain. Mais bon, l'émission est en direct. On va se retrouver dans un instant. Cette rencontre inédite entre Nadia Ebouga, qui est avec nous, et le professeur Henri Joyeux. Si vous avez des questions à poser, vous les poserez tout à l'heure au 01 53 48 3000. 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS, avec Philippe Robichon.
Voilà, Nadia Ebouga est arrivée, sage-femme et sexologue. Ça va, Nadia ?
Ça va, bonjour à toutes et à tous.
Voilà, le professeur Henri Joyeux est avec nous pour cette émission SAS, santé, amour et sexualité. On parlera de cette fameuse éducation à la sexualité et à l'affectivité que vous défendez tous les deux. Nadia, comment est-ce que vous avez connu le professeur Joyeux ?
Alors moi j'ai connu le professeur Joyeux donc lors de mes études de sexologie. Donc en fait je vous ai absolument pas connu via le prisme de l'étiquette anti-vaccin
qui est fausse
voilà. Faudrait plutôt vous coller l'étiquette anti-adjuvant si on veut être vraiment juste.
Bien, voilà. Moi, vous me connaissez bien là.
mais du coup voilà, je vous ai connu comme ça. Donc c'est la première édition de votre livre qui date des années 80.
Absolument.
Et vous étiez l'un des premiers à parler d'éducation à la sexualité à cette époque-là d'ailleurs. Enfin, en tout cas, l'un des premiers à avoir écrit sur la question. Maintenant, on a pléthore de bouquins, voilà. Mais vous étiez pionnier sur le sujet. Et là, en tout cas, l'un des premiers.
Vous raison, voyez, nous avions un enfant adopté qui était le demi-frère de mon épouse, qui était d'Algérie. Mm-hmm. Il vivait là-bas un peu avec ses parents, mais ses parents voulaient le visser parce qu'il ne foutait rien, etc. Donc, au lieu de le mettre pensionnaire à 11 ans, j'ai dit à mon épouse, écoute, on vient de se marier, on le prend. Mm-hmm. Voilà, donc, notre premier enfant n'était pas à nous, mon beau-frère, si vous voulez, 11 ans. Et d'emblée, j'ai observé qu'il se posait des questions. Sa sexualité, et moi-même je sentais que la société était en train de nous préparer à des choses dans la sexualité qui pour beaucoup de gens étaient tabous. Mm-hmm. En particulier sur l'homosexualité, où il y avait des mots que je n'aimais pas, mais qui étaient utilisés dans les lycées, dans les écoles, etc. Et donc je me suis dit, si jamais un jour, parce que nous avions le désir avec mon épouse d'avoir des enfants, on en a eu 6, 3 garçons, 3 filles, si on a des enfants qui sont homosexuels, bon ben, on va pas les foutre dehors, quoi. On va pas pleurer comme des... Voilà, on va essayer de comprendre. Or, si vous voulez essayer de comprendre, ben, il faut se mettre au travail, quoi. C'est-à-dire se mettre au travail, ça veut dire trouver des bouquins, essayer de voir qu'est-ce qui se disait avant l'époque où vous êtes en train de vivre, etc., etc. Et donc, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé tout ça. Et puis, le sida arrive. Et à ce moment-là, Jacques Ralite, qui est ministre de la Santé de Mitterrand, vient un jour à Montpellier. Et il y avait un repas où il inaugurait un de mes laboratoires de recherche. Bon, très bien, donc j'étais pas très loin de lui. Au moment du café, le gars qui était à sa droite, mon patron, s'en va. Donc du coup, je me rapproche de lui et il avait lancé une idée, la grande concertation sur le cancer. Pour les profs de cancérologie, nous étions 11 en France à être profs. Bon, là, il y en a beaucoup. Et je vais le voir là à côté, puis je me dis, je vais me le payer, quoi. En lui disant, mais qu'est-ce que c'est ça? Nous avons des missions très importantes d'enseigner, de soigner, de chercher, et vous nous enfilez une autre supplémentaire d'aller enseigner le grand public. Mais on est débordés, je lui dis, monsieur le ministre, on a autre chose à foutre, quoi. Ah, il me dit, écoutez, je vais vous expliquer. Il me raconte sa vie, et sa vie va me toucher. Il était le fils d'un ambulancier, et il me raconte que quand il était gosse, il allait souvent à Villejuif amener des malades. Et pour être avec papa, il était à la voiture. Logique. Bon.
Alors, Villejuif, c'est
l'Institut du cancer. Mm-hmm. Bon. Et à ce moment-là, il disait à papa, dis papa, la dame qu'on a amenée la semaine dernière, ou il y a 15 jours, là, elle était en pleine forme quand on l'a amenée, et puis elle revient, t'as vu, elle a plus de cheveux sur la tête. Il comprend qu'il se passe quelque chose. Alors il dit, papa, c'est pourquoi cette dame? Les docteurs, c'est fait pour soigner. C'est lui, en tant qu'enfant, futur ministre de la Santé. Et le papa lui répond, chut, cancer, chut, cancer. Donc il entend chut, cancer, ça veut dire, il ne faut pas utiliser le mot. Mmh. Vous voyez? À partir de ce moment-là, il devient ministre de la Santé, il est dans le domaine artistique et pas dans la santé. Il dit, mais où on en est avec le cancer? Sa première idée ressort, l'enfance ressort chez l'adulte. Et à ce moment-là, il dit... Ben, qu'est-ce qu'on sait sur le cancer? Il demande à ses collaborateurs. Les collaborateurs lui disent, écoutez, monsieur le ministre, voilà, on en perd tant, on en sauve tant, la prévention démarre. Prévention? Moi, je veux qu'on en parle à tout le monde. Camarades, je veux qu'on en parle à tout le monde. Bon, il était communiste à l'époque. Bon.
C'est un des 4 ministres communistes.
Tout à fait, ouais. Tout à fait. Et bien, en me racontant sa vie, ce ministre communiste va me convaincre. Car j'avais reçu sa lettre, j'avais foutu à la poubelle, je le lui ai avoué. Et je disais à mes collègues, bon, écoute, tu te couches devant le ministre, très bien, moi, j'y vais pas. Moi, je résiste, je n'y vais pas. Et à ce moment-là, le lendemain, je dis à un de mes collègues, écoute, je te remplace. Il me dit, mais t'as changé d'avis? Je dis, mais c'est le ministre, il m'a fait changer d'avis. Il me dit, purée, tu es devenu communiste. Il dit, non, je suis pas communiste. Mais il m'a fait changer d'avis parce qu'il m'a fait comprendre. Et le soir même, j'étais à Béziers, un amphi comble, je ne sais plus combien de centaines de personnes. Là, question sur le cancer, question sur le sida, nous sommes en 82. Et à la sortie, un jeune vient me voir.
C'était juste au moment où on découvre le virus. Hein.
Tout à fait.
Il faut comprendre. Hein. C'est
tout à fait,
82,
le virus du sida.
Voilà, en 82, on n'avait pas énormément d'informations sur ce
absolument,
que c'était que le sida.
Absolument. Et alors ce jeune vient me voir.
Et en même temps, il faisait des ravages aux États-Unis.
Ça faisait des ravages. Bon, ce jeune vient me voir, je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille. Du coup, je lui demande son prénom. Heureusement, il me dit Philippe. Bon, mais je ne savais pas si c'était un garçon ou une fille. Si vous voulez, j'avais une difficulté à repérer qui était ce jeune qui venait me voir, qui avait à peu près 18 ans. Bon. Il me dit, Philippe, il pleure. L'autre qui était avec lui, lui dit, mais dis-le. Et il me dit, j'ai le sida. Bon. Il me dit, je vais mourir. Je dis, non, vous n'allez pas mourir. Vous êtes là devant moi, j'essaye de... Bon. Il me dit, je veux que vous me soignez. Je dis, mais écoutez, excusez-moi, je suis cancérologue, mais moi, je ne soigne pas le sida. Il me dit, oui, mais il n'y a pas de traitement, je vais mourir. Il n'y avait pas de traitement à l'époque. Bon, je dis, écoutez, venez me voir tel jour, telle heure à mon bureau. Je vais le voir. Il vient me voir. Et là, je lui demande, racontez-moi un peu votre vie. Comment vous êtes arrivé là? comment vous êtes transfusion? Non, pas du tout. Bon, alors il a écrit un bouquin depuis, il est plus de ce monde malheureusement, qui s'appelle L'enfer est à vos portes. L'enfer est à vos portes. Il a signé Philippe Séropositif. Mmh. Vous voyez? Bon, très courageusement, parce que il a accepté d'enregistrer tout ce qu'il m'a dit, et puis ensuite je lui dis tout ça que tu as, je tutoyais, enregistré, Philippe, il faut que tu l'écrives. Et moi, je te le ferai publier. Et ça a été publié. L'enfer est à vos portes. Évidemment, ça n'a pas été repris par les grands médias, etc. Mais ce garçon est mort dans les années à peu près 92, vous voyez, 10 ans plus tard, du sida, bien sûr. Ça a été. Et puis il m'en a fait connaître. J'ai fermé les yeux pour l'éternité. Je ne sais pas, près d'une centaine de jeunes. Vous n'imaginez pas ce que ça représente. Le cancer. Quand vous avez le cancer, vous avez l'espoir de vous en sortir. Quand vous avez le sida, à l'époque, vous avez zéro espoir. Vous voyez, zéro espoir. Et vous savez, en fonction de votre rapport des T4 sur T8, c'est-à-dire des lymphocytes qui donnent votre immunité, vous savez grosso modo le nombre de semaines ou de mois qui vous reste à vivre. Aujourd'hui, avec le cancer, c'est pas ça. Et heureusement qu'avec le sida, nous arrivons à soigner les gens qui vivent aussi longtemps avec le sida que ceux qui ne l'ont pas. La différence, c'est qu'il faut prendre des traitements.
Alors oui, justement, ça c'est donc vous en parlez dans votre livre, notamment oui. comment c'est l'amour.
Oui, pour les 15-20 ans.
Voilà, exactement. Et alors ce que vous dites là, ce que vous racontez là, c'est quand même c'est le contexte des années 80, 90.
Ça a
voilà.
changé. Oui.
Exactement. Là, ça a changé. Vous le dites très justement. Donc on a des traitements, on a la trithérapie actuellement. Et on a aussi des traitements préventifs dont vous ne parlez pas dans votre livre,
non,
pourtant réactualisé.
Ils n'existent pas encore.
Bah, 2016.
Préventifs, vous êtes sûr qu'ils sont préventifs?
Alors, on va en discuter. La PrEP existait aux États-Unis déjà depuis 2012 et elle a été mise en circulation. Non. Alors, on va en parler. On va dire ce que c'est la PrEP.
Aux gens,
bien sûr.
Là, Nadia, j'ai envie bien de dire
sûr.
Que.
Alors, la PrEP, c'est un traitement médicamenteux, donc qui signifie prophylaxie pré-exposition. Voilà, c'est un traitement en fait qui est proposé aux personnes qui pensent avoir des rapports à risque.
Qui ont peur.
Pas forcément qui ont peur, mais qui
ont peur de l'attraper, quoi.
Des personnes qui pensent pouvoir être plus à risque que les autres.
Tout à fait.
Voilà. Et également des personnes qui sont séronégatives. C'est un traitement pour les personnes qui n'ont pas contracté le VIH. D'ailleurs, dans votre livre, vous parlez beaucoup de sida. Je pense qu'il est plus juste de parler de VIH dans un premier temps, parce que sida, c'est le stade de la maladie et ça crée une confusion, alors qu'on sait que nos jeunes ne savent pas trop faire la différence. Donc, il y a cette PrEP, donc ce traitement avant exposition. Ou risque d'exposition, et il y a aussi un traitement post, donc la TEP, qui est un traitement post-exposition, donc pour les personnes qui pensent pour le coup avoir été exposées, ou alors qui auraient un partenaire qui aurait avoué sa séropositivité. Alors vous n'en parlez pas, et pourtant ce sont des traitements qui ont maintenant démontré leur efficacité.
J'en suis pas sûr.
Alors, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce qu'il y a des études.
Oui, je sais, j'ai vu les études. Vous savez, beaucoup d'études scientifiques aujourd'hui sont manipulées. Elles sont manipulées par tous ceux qui fabriquent le produit. D'accord? Alors, je ne dis pas que ce n'est pas efficace, et je ne dirais pas à un jeune, ne le prends pas, certainement pas. Mais je lui dirais, réfléchis un peu, quoi. Réfléchis un peu, tu as quand même un citron, tu as donc des neurones. Tes neurones, t'es hyper intelligent, parce que t'es pas hypo-intelligent, tu es hyper intelligent. Ils sont tous hyper intelligents. Fais attention quand même que ta sexualité, c'est un sujet majeur en toi. Majeur. Tu as une puissance sexuelle inouïe. Les mots que j'utilise sont presque faibles. En tant qu'homme, je parle à un homme là, hein, je parle pas à une femme. Et cette puissance sexuelle, il faut que tu t'en méfies. Il faut que tu t'en méfies. De la même façon que nous avons tous en nous une certaine agressivité, un certain nombre de défauts, si vous voulez. Et j'aime beaucoup le mot d'Abdelkader dans le soufisme sur le djihad avec un grand D, c'est-à-dire c'est la bagarre contre mes défauts à moi, pas contre les défauts de l'autre. Le petit D, djihad, ça c'est la bagarre contre le voisin. Par contre, le grand D, c'est, et ça c'est vrai, vous le retrouvez dans le christianisme.
C'est le djihad intérieur.
Oui, donc. Le djihad intérieur, c'est-à-dire je fais la bagarre contre mes défauts. Or, les défauts que je peux avoir quand je suis 16, 17, 18 ans, c'est que toutes les nanas que je vois autour de moi, qu'est-ce qu'elles sont belles.
Donc la puissance sexuelle n'existe que chez l'homme alors?
Non, attention, vous avez la puissance sexuelle qui existe aussi chez la femme, qui est plus d'abord une puissance affective, je dirais, qui peut se transformer en puissance sexuelle, surtout si la femme a été blessée par nous les mecs. Parce qu'attention que quand une femme a été blessée par des mecs, moi je dis aux mecs, garde-toi. Hein.
Mais qu'est-ce qui vous fait dire que la puissance sexuelle féminine est d'abord affective?
Parce que je crois connaître assez bien le féminin, si vous voulez. Mm-hmm. Je connais le féminin blessé, je connais le féminin non blessé. Non blessé par nous, les mecs, hein, attention. Mm-hmm. Hein. Moi, je mets une responsabilité majeure dans notre capacité de blesser le féminin, mais qui est liée au fait qu'on ne nous éduque pas pour le respect de la femme. Mm-hmm. Vous voyez, mmh. C'est-à-dire que si le jeune n'est pas éduqué dans le respect de l'autre, de la femme comme de l'homme, bien le danger, c'est qu'il va aller vers son désir et qu'aujourd'hui, la société actuelle vous dit, va vers ton désir. Mmh. Ton désir, c'est ça, vas-y, plein pot. Mmh. Je ne suis pas d'accord. Mmh. C'est ton désir, tu peux le gérer. Surtout si ce désir t'amène à choper le VIH.
Alors, vous dites quelque chose d'intéressant, justement. Donc il n'y a pas d'études scientifiques qui démontrent que la puissance féminine est plutôt affective. On est d'accord.
On est d'accord.
Donc,
vous dites ça, Nadia, c'est que vous n'êtes plutôt pas d'accord avec ça.
Mais je pense que docteur, enfin professeur, non, désolé, non, joyeux. Ah,
appelez-moi Henri.
Voilà.
Moi, je vous appellerai Nadia.
A compris où je veux en venir. C'est que si, effectivement, vous avez prononcé un mot très juste, hein, vous avez parlé d'éducation. Donc, on sait que la sexualité découle de l'éducation. L'éducation découle.
Wallou aujourd'hui, l'éducation.
L'éducation découle d'une construction sociale. Ouais. Donc, qu'est-ce que ça signifie ? Que finalement, ces femmes que l'on pense avoir une puissance sexuelle d'abord sur un soubassement affectif et ensuite sexuel.
Le surbassement.
C'est pas. Surbassement, comme vous voulez. C'est qu'on les a construites dans ce sens. Parce que, actuellement, on voit bien que les jeunes femmes nous démontrent tout l'inverse. Donc, ce que vous dites, c'est ce qu'a dit Freud pendant des années, c'est ce qu'on dit avant. Oui. Donc, si vous voulez, le fond du problème, il n'est pas là, en fait. Que l'on ait une puissance sexuelle équivalente aux hommes, ou peut-être même plus puissante, qui sait, c'est pas ça la question.
Certainement plus puissante.
Alors, certainement.
Plus puissante chez vous.
Restons égalitaires, déjà, c'est déjà bien.
L'égalité, c'est...
Ok, pas de souci. Mais je reviens donc au sujet sur lequel nous étions partis, quand même, qui est la prévention VIH SIDA. Oui. Si vous, du coup, vous ne considérez pas ces études, qui ne sont pas toutes faites par des laboratoires, quand même, elles ne sont pas toutes faites par des laboratoires. Professeur Joyeux, soyons quand même.
Les liens.
Il y a des personnes qui ne sont pas payées par des labos, qui font. Alors, regardons aussi du côté de la sociologie, qui est fort intéressante sur le sujet. Là, ce que vous avez dit, moi, je l'entends parce que j'ai plus de 40 ans. Donc, j'entends ce que vous dites. Mais un jeune ou une jeune, vous le perdez en cours de route. L'explication que vous venez de me donner, vous le perdez en cours de route. S'il est dans une nécessité, il n'a pas eu cette éducation à la sexualité, à l'affectivité, d'accord ? Il arrive avec une demande qui est, voilà, j'ai des rapports, je pense être exposé. Que fais-je ?
Je le traite, bien sûr.
C'est-à-dire, vous lui proposez quoi, du coup ?
Je lui propose le traitement. Si déjà il est passé à l'acte, si vous voulez, et qu'il a peur d'avoir attrapé, je le traite immédiatement.
D'accord.
Pas de problème.
Mais même s'il n'est pas passé à l'acte et qu'il arrive dans
le contexte... Je vais essayer de le faire réfléchir. Mm-hmm. C'est quoi l'acte ? On va passer peut-être une heure à discuter. Mm-hmm. Je vais le faire rigoler. Je vais essayer de lui faire passer ce que l'on ne lui a pas dit au moment où il fallait le lui dire. Mm-hmm. C'est ce que j'appelle l'âge le plus important de la vie. Vous voyez ?
La puberté.
La puberté, voilà. Mm-hmm. C'est là. Alors, c'est très amusant parce que quand je vois énormément de parents, je leur dis qu'est-ce que c'est l'âge le plus important de la vie pour vous ? Alors, il y en a qui vous disent quand j'ai eu tel succès, quand j'ai été reçu à, quand je me suis marié, quand ceci, quand cela. Je dis non, vous êtes complètement à côté de vos pompes, quoi. Alors, je les choque. Et c'est pas mauvais de choquer un peu les gens et de faire rigoler. C'est votre puberté. Vous vous souvenez de votre puberté ? Alors, madame, est-ce que quand vos seins, vos glandes mammaires se sont construits, vous vous souvenez ? Est-ce que c'est la droite qui s'est construite plus rapidement que la gauche ? Moi, c'est ma femme qui m'a appris ça, puis j'ai interrogé les femmes. Ah oui, c'est vrai, ça se construit pas en même temps. Et pourquoi il y a des cancers du sein plutôt à droite ou plutôt à gauche, etc. Tout ça, c'est extrêmement intéressant. C'est parce qu'il y a une hormonodépendance. On change de sujet un petit peu. Mais voyez, simplement pour vous montrer l'éducation, information.
Alors, on va revenir sur l'éducation à la santé, l'affectivité et la sexualité avec deux canaux aujourd'hui qui sont très importants, Instagram et la pornographie, voulez bien. Je vous propose d'en parler dans un instant. Si vous avez des questions à poser, 01 53 48 3000, vous pouvez intervenir. Nadia Elbouga, le professeur Henri Joyeux sont nos invités jusqu'à 10h.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h-10h, AVS, avec Philippe Robichon.
C'est ça, ce matin, c'est santé, amour et sexualité avec Nadia El Bouga, le professeur Henri Joyeux. Ça tombe bien, on parle de sexualité. Et la sexualité, c'est bon pour...
L'immunité.
La santé.
Et la santé, bien sûr.
Pourquoi c'est bon pour l'immunité? Expliquez-nous, professeur, quel est le lien entre la sexualité et l'immunité?
C'est-à-dire que si vous avez une sexualité épanouie, ça veut dire aussi que vous avez une affectivité épanouie, parce qu'il n'y a pas de sexualité épanouie si le cœur n'est pas en phase avec la partie la plus basse de votre corps. D'accord? C'est pas évident. Donc ça demande, si vous voulez, je ne sais pas s'il faudrait dire le mot expérience, j'en sais rien, je ne sais pas ce qu'il faudrait dire exactement, mais si vous êtes dans un équilibre de ces deux éléments majeurs de votre corps, le cerveau affectif et d'autre part la partie organique, balistique de votre corps, que ce soit homme ou femme, à ce moment-là, tout va bien. Parce que quand nous avons un état dépressif, qui est très souvent lié à une affectivité et sexualité un peu, je dirais, qui se cherche, eh bien, vous avez des taux de lymphocytes qui baissent. Ça veut dire que votre immunité baisse. On le sait, la dépression baisse nos défenses immunitaires. Voilà.
D'accord. Alors là, pareil, petit clin d'œil à nos auditeurs et nos auditrices qui sont asexuels, parce qu'il existe des personnes asexuelles.
Qu'est-ce que vous voulez dire par asexuel ?
Alors, c'est là où il est intéressant de définir sexualité. Oui. Parce que, si vous voulez, la plupart des personnes, quand vous parlez de sexualité, ils entendent génitalité.
Ah oui, c'est une erreur.
On peut, oui.
Vous avez raison.
Nous le savons tous les deux, mais pas forcément tout le monde. Et donc, c'est intéressant
La génitalité pour tout le monde. Parce
génitalité,
que
c'est-à-dire, en fait, des relations sexuelles qui ont lieu au niveau du pénis, du vagin.
Vous parlez d'une sexualité pénétrative.
Pas forcément pénétrative, mais qui a lieu au niveau de la région du bassin.
Bas du corps.
Voilà. Bas du corps, ça peut être les pieds. Hein. Donc vraiment, la région du bassin, c'est du bassin. On peut avoir une sexualité fétichiste.
Dans le bassin, les gens vont chaudron. Donc, entre les gens, ça ira.
Oui. Voilà.
Sortez-moi de là.
Voilà.
Sortez-moi de là.
Mais écoutez, on a dit, on appelle un chat un chat, une chatte une chatte, n'est-ce pas?
Tout à fait.
Voilà. Donc... les asexuels sont des personnes qui n'éprouvent pas le besoin d'avoir de sexualité génitale. Ouais. Pour autant, il serait intéressant justement d'analyser leurs anticorps, parce que ils n'ont pas de sexualité génitale, mais on a des asexuels romantiques, donc des personnes en fait qui ont une affectivité, qui vivent avec cette affectivité-là et qui peuvent faire toute leur vie comme ça, et pour autant, ils n'en souffrent pas. Oui. Donc, il faut qu'on sorte des schémas prédéterminés de la sexualité, c'est bon pour la santé, ça veut dire génitalité, bon pour la santé.
Oui,
non.
Non, mais moi, je parle de la sexualité au sens large, avec affectivité, bien sûr.
Oui.
Bien sûr.
Alors, est-ce que c'est réducteur et un raccourci de dire, professeur Joyeux, que la non-éducation à la sexualité et à l'affectivité conduit à la consommation du porno chez les ados?
Je réponds oui. Je vais vous dire pourquoi. Quand vous n'avez pas le savoir, vous allez au voir. Et c'est logique. C'est-à-dire que vous n'avez pas une information de papa, de maman, de grand-père, de qui vous voulez, ou de l'école, qui vous donne une information de qualité, au sens où vous vous sentez respecté, informé, et bon, ça va. Vous n'avez pas besoin, si vous allez sur du porno, vous n'irez pas longtemps. D'accord ? Parce qu'on vous a expliqué, le porno, tu vas te faire exploiter. Tu vas te faire exploiter par ton pognon, et tu vas prendre des images qui vont rentrer dans ton cerveau, des images qui ne sont pas la réalité. C'est ce qui est dit d'ailleurs dans le journal le 1er septembre, dans Le Monde, le journal Le Monde, où il y a deux pages extrêmement intéressantes sur l'éducation à la sexualité sur Instagram et tous les réseaux sociaux, où le porno est en tête partout. Pourquoi les gosses vont-ils sur le porno? Pour moi, les gosses, ça va assez loin quand même, ça va au moins 18 ans. Bon. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le savoir. Donc, et c'est logique, ils vont en voir, je ne vais pas leur reprocher. Donc, ils vont en voir, mais qu'est-ce que c'est ce voir? Qu'est-ce que c'est ce voir? Voyez? Bon, est-ce que le voir, les deux parties du corps qui sont en train de faire joujou et tout ce que vous voudrez, est-ce que ça va éduquer le jeune? Moi, je vais vous dire, j'ai vu des jeunes femmes, des jeunes filles, qui ont pris des images dans leur tête, qui les ont gênées dans leur propre sexualité. J'ai vu des garçons aussi, qui, quand ils sont en relation sexuelle avec une femme ou homme-homme, qui sont gênés parce qu'il y a des images qui reviennent. Parce que tout ça va dans notre hippocampe. On a deux hippocampes, à droite, à gauche, 3 à 4 cm cubes de volume. Ça engramme tant que ça peut. Or, nous engrammons des choses absolument vitales pour notre vie. Qu'est-ce qui est vital pour notre vie? De m'alimenter, d'aimer, ça veut dire y compris la sexualité, et c'est de l'argent, j'ai besoin d'argent pour vivre, acheter mon pain. D'accord? Donc c'est 3 A, si vous voulez. Vous voyez, donc ce qui se passe, c'est que qu'est-ce qui va être le plus retenu dans notre vie ? C'est pas ce que je mange. Je sais même pas ce que j'ai pris comme soupe hier soir. C'est ce qui va me marquer dans le domaine de l'amour, qui vous démontre que l'amour, au grand sens du terme, il y a la sexualité dedans, c'est quelque chose d'absolument vital pour l'être humain.
Alors, je vous rejoins sur le fait que effectivement la pornographie induit en fait des comportements et des scripts sexuels. Je suis complètement d'accord avec vous. En revanche, je ne vous rejoins pas sur le fait que la pornographie ce n'est pas la réalité. La pornographie c'est la réalité. C'est ce qu'il faut dire aux jeunes justement. C'est-à-dire que oui, parce que ils vont nous contredire en nous disant, et ils auront raison, que c'est bien la réalité parce que il y a bien. Alors, je vais prendre la pornographie hétérosexuelle. Une femme et un homme nus, ce sont des humains réels qui sont derrière une caméra. Oui, c'est la réalité. Par contre, le scénario qui est présenté et qui est donné à voir ne représente pas la réalité sexuelle de monsieur et madame tout le monde. C'est-à-dire qu'on nous impose effectivement des scripts sexuels de plus en plus d'ailleurs hard et de plus en plus poussés, hein, qui sont finalement le fruit de l'imaginaire du réalisateur de ces films porno. Donc le discours de dire ce n'est pas réel en fait n'est plus entendable par les jeunes. Oui, c'est la réalité, mais c'est une réalité construite à qui on demande en fait de répondre à des scénarios.
Mais c'est du cinéma, Nadia.
Alors c'est du cinéma.
La télé-réalité, c'est de la télé.
Oui, mais il y a de la réalité. Les jeunes ne retiennent pas, c'est de la télé. Ils retiennent que c'est de la réalité. C'est-à-dire que face à eux, ils ont. Je ne sais pas, parce qu'on a aussi du porno dans
les.
On a aussi du porno dans les mangas. Donc si on avait, si vous voulez, le porno des mangas ou des animés comme référence, ce discours, ce n'est pas réel, tiendrait la route. Là, on ne peut pas dire que ce n'est pas réel. Donc pour le déconstruire, il faut partir du fait qu'il est réel.
Oui, mais il est filmé.
Oui, mais il est réel.
Qui est filmé ?
On est d'accord, on se rejoint, je vous ai dit, sur la question là, mais c'est les termes utilisés, en fait, qu'on peut perdre les jeunes dans nos explications.
Je comprends.
Ah, mais ils font extrêmement attention aux mots, les jeunes.
Oui, mais ce qu'il y a, c'est que vous me parlez essentiellement des jeunes qui ont, disons, au-delà de 15 ans, c'est-à-dire le dernier bouquin. C'est quoi l'amour et la sexualité?
Ah non, 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 je vous parle d'enfants.
Hein. Oui, non, mais alors quand vous avez des enfants de 13 ans, moi ce que je voudrais, c'est que l'enfant de 13 ans ait été déjà informé depuis l'âge. Comme la jeune fille peut avoir la puberté à 9 ans, pour moi il faut démarrer à 8 ans. Comme le garçon peut avoir la puberté entre 12 et 14, il faut démarrer à 11.
La première exposition d'ailleurs au film porno, hein, d'après des dernières études IFOP, hein, c'est 8-9 ans.
Oui, mais est-ce que vous pensez que c'est bon pour leur éducation et
Non, mais on se rejoint là-dessus.
Non, la question, c'est comment est-ce qu'on peut forger un esprit critique aux enfants par rapport aux films porno.
Ce que dit une gynéco-obstétricienne de la Salpêtrière, elle le dit dans Le Monde, elle dit ce qu'il faut qu'ils arrivent à comprendre, c'est que c'est pas du réel, elle dit. C'est pas du réel, c'est pas la vérité de l'amour ou de la sexualité.
Oui, mais dire ce n'est pas du réel,
non,
en fait,
elle
c'est...
dit ça.
Oui.
Mais moi, je lui réponds, je ne le connais pas, je ne l'ai pas vu, je lui réponds, madame, vous rêvez. Vous rêvez. L'enfant, il voit ça, il capte ça, 100%.
Et parce que pour lui, c'est du réel.
Oui,
c'est précisément ça, le problème.
Et tout à fait, vous avez raison. Oui. Ça veut dire, est-ce que c'est bon qu'il aille voir ça ? Qui c'est qui fait du pognon sur le porno ?
Oui, alors...
Ce sont des gens qui exploitent nos jeunes.
On est d'accord.
Parce qu'ils n'ont pas le savoir.
On est d'accord. Sauf que, si vous voulez, à l'heure actuelle, on n'a pas la main sur les geeks qui gèrent tout ça, d'accord ? On sait que ça brasse des billards. On est d'accord. J'ai invité Ovidie, qui est une ex-actrice de films porno, qui connaît très bien le milieu et qui a fait donc un documentaire qui s'appelle Pornocratie sur la question. Et on voit vraiment les coulisses de cette industrie, parce que c'est une industrie avant toute chose,
c'est plus
colossale. On est d'accord. Mais là où je veux, enfin là où c'est important à mon sens, c'est que de toute façon, maintenant en 2021, on n'empêchera pas les jeunes d'accéder. Malheureusement, tant que les États n'auront pas pris à bras le corps cette question, on n'empêchera pas les jeunes en un clic d'accéder à toutes les formes de pornographie possibles. Donc la question, elle n'est pas de je suis pour ou contre la pornographie, elle est sur le fait que cette pornographie est présente. Donc maintenant, comment nous, on peut utiliser cet élément-là pour asseoir l'éducation à la sexualité. Et partir, peut-être, parce qu'on a des enfants qui nous posent des questions qui ne sont pas celles des années 70 et 80. Des parents sont complètement démunis parfois par rapport à des questions.
Comment on l'utilise ? Comment on l'utilise ? Puisqu'on n'empêchera pas les enfants de regarder et d'accéder à la pornographie. Comment on l'utilise aujourd'hui, professeur Joyeux, et qu'est-ce qu'on dit aux enfants, encore une fois, pour se forger cet esprit critique et recevoir ces images?
Je pense qu'il faut commencer tôt. C'est pour ça que je disais, l'âge le plus important, c'est la puberté. C'est-à-dire que quand vous sentez la puberté de votre enfant qui se construit physiquement, sachez que ça a déjà démarré dans sa tête psychiquement. Donc ça veut dire qu'il faut avoir parlé avec cet enfant, la maman avec sa fille, un peu le papa. Il y a des choses que le papa peut dire, effectivement, que la maman peut pas dire. Et la maman peut dire des choses à son garçon, et le papa peut dire des choses à son garçon qui sont différentes. C'est pour ça, d'ailleurs, que dans les bouquins que j'ai écrits, vous avez papa qui répond, maman qui ne répondent pas la même chose. Mmh. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc, si vous voulez, je pense
Mais qu'est-ce qu'on dit aux enfants? C'est ça.
Donc vous commencez à parler de pornographie à la puberté?
Bien sûr.
Pas avant.
Mais ça dépend de quel âge. À 8 ans, oui. Je peux lui en parler. Je veux dire, ma fille, à l'école, on peut te raconter de ceci, de cela, sur ton téléphone portable, tu peux voir des choses. Je vais t'expliquer pourquoi tu as des images comme ça. Mm-hmm. C'est parce qu'on ne t'a jamais parlé, mais moi, je suis ta maman, moi, je suis ton papa, je vais t'expliquer ces choses-là. Mm. Ça veut dire qu'il faut mettre de la distance à cet enfant par rapport à ce qu'il peut aller voir. Il ne s'agit pas de lui dire « je t'interdis d'aller voir ». Parce que plus vous allez mettre d'interdit, oui, plus il va y aller.
Évidemment.
D'accord.
Évidemment.
Bon. L'important, c'est que vous êtes là pour aider cet enfant à construire, je dirais, sa sexualité au sens large. Hein. Ce n'est pas sa relation sexuelle.
Ben ça, c'est une PrEP, justement. C'est une prophylaxie pré-exposition.
Oui, c'est une PrEP, mais ce n'est pas, oui. C'est pas un comprimé.
Non, on est d'accord. C'est une PrEP psychique.
C'est une information, mais oui, mais c'est vachement important. Mais c'est ça, l'essentiel.
Donc, le message essentiel, c'est justement d'être dans la prévention. C'est d'être dans la prévention. Et vous le dites, d'ailleurs, hein, c'est en filigrane dans vos différents...
Ça, c'est mon métier de cancérologue, oui. Qui fait que je suis... Maintenant, j'ai arrêté le bistouri, étant donné mon âge, mais je suis dans la prévention jusqu'au cou. Mm. C'est-à-dire, si vous voulez avoir un cancer à l'estomac, demandez-moi comment... Je vous dirai comment avoir un cancer à l'estomac, comme Bernard Tapie, par exemple.
Oui, alors après Professeur Joyeux, justement, autre chose également. Alors, effectivement, on doit être dans la prévention. En revanche, ne doit-on pas parler aussi de sexualité? Enfin, je dis même de façon primordiale de sexualité, en termes positifs.
Bien sûr.
Et pas uniquement sous le prisme de la prévention, du risque.
Non, mais il ne s'agit pas de parler de choses dangereuses. Vous parlez que du positif. Mm. Tu es en train de construire ton corps, tu es en train de construire ton cœur. Mm-hmm. L'enfant comprend ça, hein, le cœur. Un jour, il y a une petite fille, j'avais fait un concours. Vous alliez, les enfants, me dire qu'est-ce que c'est l'amour. Mm. D'accord ? Et vous allez écrire sur un papier. Et puis, il y en a un qui aura le prix, avec un joli cadeau. Bon. J'avais fait ça avec les adultes. Vous savez qui c'est qui a gagné le prix? C'est une petite de 10 ans. Qu'est-ce qu'elle a écrit? Elle a écrit « L'amour, c'est se dire des secrets ». Bon, alors, qui c'est qui a écrit ça? La petite, elle a écrit, elle est venue parce qu'elle n'avait pas signé. Bon, j'ai dit « C'est quoi les secrets? Où sont tes secrets ?» Elle me fait là, le cœur. Vous demandez à un garçon « Où sont tes secrets ?» Je te fais là. Pas tous, hein. Vous avez des garçons qui utilisent...
Là, vous montrez la tête, on fait de la radio, professeur,
oui,
donc c'est pour expliquer aux gens.
D'accord.
Vous avez montré votre cœur, pour la petite
bon,
fille...
Et donc, en réalité, vous avez des secrets de l'esprit, des secrets du cœur, et puis je leur dis, les secrets du corps, ils sont où? Alors, le fils du pneumologue, il vous dit les poumons. D'accord. Le fils de l'orthopédiste, il vous dit les os, les secrets, dans le corps. Et puis, il y en a un qui vous dit le sexe. Vous le faites applaudir. Et oui, est-ce que tu montres ton sexe à tout le monde? Non, quand tu vas faire pipi, quand tu vas aux toilettes. Vous lui faites passer le message de respect de son propre corps et de son intimité. Qu'est-ce qui est intime en nous?
Alors Nadia, non, oui. On s'est terminé. Alors,
oui, alors je voulais juste dire que je redonne rendez-vous au professeur Joyeux parce qu'on n'a pas abordé la question du genre qui est fondamentale, oui. Et donc il faut qu'on se retrouve de nouveau
quand
pour
vous
pouvoir échanger sur le thème.
On pourra parler du genre, Nadia.
D'accord, ben, quand vous aurez vidé Paris de ses bouchons, alors...
Vous avez lu le livre d'Esther Pivet sur le genre fabuleux.
Mm-hmm. Non, je ne l'ai pas lu.
Il y a peu de temps.
Et comment il s'appelle, professeur, pour
Esther
tout le monde? Pivet.
Pivet, P-I-V-E-T.
Bien, vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net. Vous voyez cette vidéo sur notre chaîne YouTube. Merci, Nadia. Je vous dis à mardi, professeur Joyeux. Vous revenez quand vous voulez. Très belle journée. Santé sur beurrefm.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli beurrefm.